Bonsoir. Eh bien, voilà, nous commençons Bembe, mais d'une autre façon. Bonsoir, Alex.
Bonsoir, Luc.
Merci de m'avoir dit de venir. Et dans le fond, pourquoi suis-je là?
Eh bien, c'est la très parole simple. Est à toi.
Moi, je la prends. La raison pour laquelle je suis là, eh bien, tu le sais très bien, c'est qu'il est arrivé un événement important. En fait, ce que nous allons faire ce soir, c'est une sorte d'éloge funèbre d'une très grande personnalité du monde afro-américain, en musique j'entends, qui s'appelle Mario Bauza, qui vient de s'éteindre. Et il faut souligner, et je crois que c'est d'importance, le rôle de ce personnage hors du commun, pas seulement en tant qu'instrumentiste, puisque dans le fond, nous le savons, il est difficile de le comparer à d'autres trompettistes, à d'autres saxophonistes, puisque dans le fond, ce ne fut jamais sur ce terrain qu'il fut égal à lui-même ou meilleur que d'autres. Mais par contre, son rôle fut très important du fait qu'il eut un rôle caché, un rôle de majesté, un rôle de personne derrière les couloirs, de personne de conseillant, arrangeant et surtout un catalyseur. Et encore mieux, quelqu'un qui a réussi à mettre en place la fusion de deux courants de la musique afro-américaine, on peut le dire d'une façon succincte, on pourrait élaborer mieux là-dessus plus tard, le jazz et la musique cubaine. Alors, ce soir, nous allons essayer de dresser un panorama aussi large que possible de la personnalité de ce grand monsieur qui s'appelle Mario Bauza. Et tout d'abord, il faut savoir qui il est. Alors, Alex, quelques mots à ce propos. Naissance, famille,
oui.
Lieu.
Alors, nous devions avoir Robert Latsag avec nous ce soir, mais il a décliné l'invitation, il ne pouvait pas, donc nous l'aurons demain soir, mais aussi, on voulait Eric Nabajot. Alors, Eric Naba, quand je lui ai dit ça ce matin, parce qu'on s'est rencontré dans la rue inopinément, il a failli péter le toit de sa voiture, tellement il était...
L'a-t-il fait?
Il a fait un saut comme ça, il était très heureux de savoir qu'il...
Il n'a pas dit boss, ça, reste.
Non, un hommage à Mario Bauza, il était à s'ennuyer, donc il sera avec nous demain soir.
Demain.
Alors, oui, pour parler de Bauza, parler de Mario Bauza, c'est mettre encore un nom à une liste non exhaustive d'éminents musiciens qui ont fait honneur à leur pays, Cuba, à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs. Et donc, nous pouvions parler d'un autre, parce que je les associe toujours, parce qu'ils se sont rencontrés, ils vont se rencontrer dans la gloire des pianistes, des musiciens en général, si ce n'est pas encore fait. Il s'agit du pianiste René Hernandez, qui lui fut le pianiste attitré de Machito, de 1940. Donc, ces deux personnages ont eu un rôle éminent dans le fameux orchestre de Machito, parce que parler de Bauza, en tant que leader, en tant que conducteur, c'est parler, bien sûr, de l'orchestre Machito. De Machito, sauf, bien sûr, quand en 1976, Mario va laisser l'orchestre de Machito. Alors, Machito, lui, il naît le 28 avril 1911 dans le quartier de Cayo Hueso, à La Havane. Cayo Hueso, c'est un quartier tout comme le quartier de Jesus Maria, qui est l'espèce de patrie des rumberos, des joueurs de tambour. Mm-hmm. Alors, il y a Atares, Los Sitio Acere, Luyano, Coco Solo, Jesus Maria, etc., etc. Donc, ce sont les quartiers de la vieille Havane qui existent toujours, même s'ils ont d'autres noms aujourd'hui. Il y a le quartier de Jesus Maria doit s'appeler Playa, quelque chose comme ça aujourd'hui. Mm-hmm. Enfin, soit. Mario Bauza naît là-bas. Mario, c'est un nègre, enfin, pas très, très noir, mais il est quand même. Ce n'est pas un nègre comme Mongito, mais il est un peu... du style le contrebassiste qui est mort, on parlait de tout à l'heure là, chez moi, mm-hmm. Contrebassiste de jazz, c'est Charlie Mingus, il ressemblait, mm-hmm. il avait la texture. Le type de Mingus. Mm-hmm. Donc il apprend assez tôt à jouer, il joue du hautbois et bien sûr de la clarinette. Et donc à 16 ans, il va jouer dans la philharmonique, de l'orchestre philharmonique de sa ville, de La Havane. Mm-hmm. Et puisque il faut savoir que dans chaque ville de Cuba, comme ça se passe dans la Caraïbe anglaise, soit il y a des orchestres municipaux, alors là, on fait des défilés, non pas dominicaux, mais une fois par mois, il y a des gens dans la rue, en bon ordre, qui défilent avec partition devant la trompette, et ça fait très caribéen d'ailleurs, hein, grand Dieu, on voit ça en Europe et dans d'autres lieux, et soit ils jouent, soit les gens jouent dans ces fameux orchestres municipaux, soit ils sont dans des choses qui s'appellent, ouais, des académies, pourquoi pas. Et là, ils apprennent les premiers rudiments de leurs instruments, même s'ils doivent en changer plus tard, d'ailleurs. Et Bauza, c'est ce qui lui arrive. À 18 ans, ce jeune premier va obtenir son passeport en 1929. Et donc, le 28 avril 1929, il s'en va.
Mais
ils sont déjà aux États-Unis.
Est-ce que déjà à La Havane, il y avait justement une musique américaine qui existait, différente de la musique cubaine?
Oui, absolument. La musique américaine, notamment avec le rythme du Charleston, les belles années, 1905, 1910 même, enfin 1920. Mm-hmm. Surtout parce que le Charleston allait faire un peu la nique au son cubain naissant. Mais le son, les nègres qui ont inventé le son à partir du changui du 19e étaient très, très pointilleux. Tout d'abord, il y a eu bagarre entre nègres cubains et blancs américains, parce que le jazz est quand même entré. Il y a certains musiciens de jazz qui jouaient déjà à La Havane. Mais très peu de gens les écoutaient d'ailleurs, parce que La Havane, il faut savoir que ce pays sortait d'une misère extraordinaire après la lutte de libération nationale, qui arrive à son terme avec les accords de Paris signés en 1898. L'administration américaine arrive sous les lieux et ratiboise tout ce qui est cubain. Alors, si au départ, au 19e siècle, les mulâtres avaient quelques droits de cité sous la mère Espagne, ben là, les mulâtres et les nègres sont mis à la même enseigne. Et donc, ça fait des îlots, quand je dis îlots, des continents de misère. Mmh. Et le racisme a été injecté, non pas par l'Espagne, mais par les États-Unis. Il y a eu notamment des trucs qui ressemblaient au clan presque, mais aussi à l'autre truc raciste qui s'appelle le Jim Crow, quelque chose comme ça.
C'est cela, oui.
Et donc, les Cubains ont été, pour la première fois de leur vie, confrontés, noirs et mulâtres, confrontés à ça, à l'administration américaine. Alors, la musique, je ne sais pas si ça fait bon ménage.
C'est la musique du Peut-être Nord que c'était circonscrit à certains endroits touristiques ou du moins pseudo-officiels.
Les Américains, non seulement avaient établi un certain nombre de bastions, de bases arrière, Guantanamo en fait partie, bien sûr, mais ils étaient très présents dans l'administration de certaines grandes villes.
À La Havane en particulier.
À La Havane en particulier.
Mais est-ce qu'il y avait déjà une immigration cubaine vers le Nord?
Oui, absolument.
Vers Nueva York.
Les travailleurs, los trabajadores, j'y arrivais, tabacaleros, donc les travailleurs du tabac, avaient déjà émigré en Floride, puisqu'il faut savoir qu'au 19e siècle, il y a José Martí, qui est le personnage le plus pur de la révolution cubaine, l'un des plus grands hommes qu'a connu toute l'Amérique d'ailleurs. José Martí allait recueillir des fonds parmi ces travailleurs émigrés cubains en Floride pour alimenter les caisses de son parti révolutionnaire. Donc les Cubains avaient déjà connu la Floride dès le 19e.
Donc New York aussi à ce moment-là a déjà ce qu'on peut appeler une diaspora cubaine d'importance.
Et aussi portoricaine.
Et aussi portoricaine, bien sûr.
Et aussi parce que Porto Rico fait partie du lot de... Enfin, c'est le butin, c'est le butin nord-américain lors des accords de Paris. Porto Rico, Cuba, Philippines.
Ce qui explique alors le voyage naturel de Mario vers New York. Et tu disais en quelle année?
Ben 1929.
Mais il y part comme musicien,
alors. Il part comme musicien. Alors, il y a une histoire assez drôle, parce que celui que Machito a appelé El Timonero, celui qui conduit le timon, celui qui a
le cocher.
Le cocher, enfin, là, il parle surtout
le timonier.
Le timonier en mer, pas le colmao, hein, l'autre. Machito compare Antonio Machin à un timonier, parce que c'est lui le premier qui a osé partir. Alors Machin, c'est un peu l'esprit du son, le son à ses débuts, une musique très désuète. Machin est mort en Espagne en 1977. Donc, alors, lui, le jeune Baúsa, qui joue de la clarinette, donc, un jour, il sait que Machin cherche un trompettiste. Alors on va revenir sur la problématique de la trompette plus tard. Et Mario dit, mais je peux jouer de la trompette. Alors Machin dit, va apprendre avant. Hein. Alors une trompette, ça coûte $15 à l'époque. Mario dit, d'accord. Moi, je vais acheter ma trompette. Alors, il s'enferme 15 jours et il apprend les gammes, il apprend les riffs, il apprend un peu le solfège, il apprend la position des doigts parce que c'est très important, parce qu'il va jouer dans un autre contexte. Il va laisser son truc municipal pour jouer le son de Machin. Et 15 jours après, il sort de son confessionnal et il fait un essai, un ensayo avec Machin qui lui dit « Banco, tiens, je n'aurai pas $15 sur les pattes de cheval. » Alors, c'est comme ça qu'il rentre dans l'orchestre d'Antonio Machin, et il va renouveler cette prouesse une autre fois avec d'autres artistes américains dont on va en parler tout à l'heure, Chick Webb et compagnie.
Exactement. Voilà. Donc il est à New York, et est-ce qu'il faire valoir de la musique cubaine envers le public américain, ou bien il reste à l'intérieur de la colonie cubaine?
Mais à New York, ce sera un peu circonscrit à la musique qu'il connaît déjà. C'est Cuba, cette musique, ils en ont confiance, parce que le son, qu'il y a 15 ans d'existence seulement à Cuba, mais le son, il commence à rentrer. Et il faut aussi dire que les Porto-Ricains, les Porto comme on dit, ils commencent à monter aussi, particulièrement un musicien dont on va écouter un thème tout à l'heure, qui est demain soir, qui est Juan Tisol. Juan Tisol, lui, qui est clarinettiste et trompettiste et tromboniste.
Tromboniste, oui.
Et donc, Juan Tisol fera partie de la section brass de Duke Ellington. Donc, il y a concurrence je ne vais pas dire Péril en a deux, mais au milieu de concurrence. Donc le Machito, pardon, le Barossa, et plus tard le Machito, devront absolument, pour pouvoir rien que manger, se mettre au goût du jour.
Le goût du jour, à ce moment-là, c'est la musique de jazz qui règne à, dans cette grande cité qui est New York, et particulièrement Harlem. Et là, Mario Barossa, je pense, rencontre Chick Webb. Et je crois qu'il avait fait partie de l'orchestre de Noble Sissle et ensuite de Cap Calloway, où il va rencontrer Dizzy Gillespie, il va rencontrer d'autres musiciens encore, Benny Carter, entre autres. Et là, il va peut-être exposer des choses cubaines à ces gens qui ont une autre conception rythmique que la sienne.
Oui, il ne va pas le faire tout de suite dans la mesure où il est toujours seul, hein, il ne faut pas l'oublier. Il faudra attendre une dizaine d'années, là où nous sommes encore, Cap Calloway, les années 30.
30, oui.
Il faudra attendre 1941, son entrée dans l'orchestre de Machito. Machito forme ses Afro-Cubans en 1940. Et là, Mario Barossa va rentrer dans l'orchestre original. Mais si tu veux, nous allons passer un premier thème. D'ailleurs, le premier que j'ai choisi, c'est son propre hymne national. C'est pour l'une des rares fois où un thème peut coller à la personnalité de musicien comme ça. C'est un peu le boléro de Ravel. Nous allons écouter Mambo In de Barossa.